Alors, je vais vous demander ce matin, un instant. Je vais vous demander de bien vouloir tourner dans l'Évangile de Jean. Et ce matin, on va voir les versets 9 à 13. Alors, Jean 1, c'est-à-dire versets 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le titre du message ce matin, comme je vous ai dit, c'est « Réaction à la parole incarnée », ou on pourrait dire réagir à la parole qui est devenue vivante, Jésus-Christ. Comment le monde a-t-il réagi à la venue du Sauveur Jésus-Christ? Cette véritable lumière-là qui éclaire tout homme, celle qui a créé le monde dans lequel on vit, le monde ne l'a point connue. La parole dit qu'elle est venue chez les siens. Et ce qui est triste, c'est que les siens ne l'ont pas reçue. Hein? Vous allez chez de la famille, en visite, et vous n'êtes pas reçu. Vous êtes déçu. Alors imaginez-vous le Fils de l'homme, le Christ, qui est venu, le Fils de Dieu, je devrais dire, qui est venu sur cette terre, la sienne, celle qu'il a créée, et qui n'est pas bien reçue. Ce genre de réaction-là nous fait peut-être réagir. Hein? Je ne pense pas qu'on puisse rester indifférent à cela, mais pensez-y deux petites minutes. Là. Quand serait-il si personne ne nous aurait présenté l'Évangile? On ferait partie de ceux qui ne l'ont pas reçu. Et on ferait partie de ceux qui ne l'ont pas connu. Mais la bonne nouvelle qui se trouve au verset 12 et 13, qui dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu. » Et nous, comme enfants de Dieu, on dit « Amen, Seigneur. Amen que quelqu'un est venu nous parler de toi. » Parce que sans cela, on serait tous ignorants. Alors, allons dans un mot de prière et allons ensuite dans cette merveilleuse parole qui nous enseigne sur cette lumière qui est venue. Mais Père éternel, merci pour ta parole ce matin, qui nous fait réagir, qui nous fait penser au fait que si il n'y aurait pas eu quelqu'un qui serait venu me parler de toi, je serais parmi ces gens-là qui ne t'ont pas connu, qui ne t'ont pas reçu. Et combien ce matin on devrait tous être reconnaissants pour ceux et celles qui sont venus nous parler de toi. Hein, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui amènent justement cette bonne parole, ce bon message cette bonne nouvelle. Alors que nos cœurs, un matin, puissent être attentifs à ce que tu veux nous enseigner. Et garde-nous éveillés, Seigneur. Et fais de nous, Père, des porteurs de bonnes nouvelles, des petites lumières parmi la grande lumière. Et c'est en Jésus qu'on prie. Amen. Verset 9 nous dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière était la véritable lumière. La lumière vraie. Hein? Des fois, là, on va en magasin, puis on fait notre épicerie, puis il y a du ketchup compliment, puis il y a du ketchup Heinz, puis non, moi je veux du ketchup Heinz. Hein? Je veux pas du compliment. Verset 9 peut peut-être vous sembler difficile à comprendre parce que, si vous vous rappelez, au verset 5, si on le compare avec le verset 9, on dirait qu'il y a une contradiction. Hein, le verset 5 dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et le verset 9 nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Si la lumière a éclairé tout homme, comment ça se fait que les ténèbres ne l'ont pas reçu? À force de lire les versets, les deux versets, bien ça devient de plus en plus clair et c'est ce qu'on va voir ce matin, l'explication, c'est-à-dire une partie de ce qu'on va voir ce matin, c'est l'explication afin qu'on comprenne tous. Si je pourrais résumer ça dans mes propres mots, je dirais ceci. Maintenant que la source de la lumière, Jésus, est venue sur la terre et qu'elle a illuminé les esprits de toute l'humanité, personne ne peut réclamer légitimement l'ignorance. Parce que la lumière, elle a éclairé les esprits de toute l'humanité. Tous ceux qui ne croient pas sont sans excuse. Avant son arrestation, Jésus a dit à ses disciples, en Jean 15, verset 22, si vous voulez aller voir ou l'écrire sur vos notes, « Si je n'étais pas venu, et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Hein, si le Seigneur ne serait pas venu, puis il n'aurait pas eu sa parole, mais il n'y en aurait pas de péché. Mais maintenant, là, Jésus parle là, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Le Seigneur n'enseigne pas ici que s'il n'était pas venu, les hommes n'auraient pas été des pécheurs, non, ça ne change rien de ça. Depuis Adam, tous les hommes sont des pécheurs. Je parle de l'humanité, hommes et femmes. Cependant, leur péché n'était pas aussi grave que là, maintenant. Ces hommes ont vu le Fils de Dieu. Ils ont entendu ses paroles. Ces paroles merveilleuses. Et il ne trouvait en lui aucune faute, qu'on peut lire dans l'Évangile. Néanmoins, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et ce genre de conduite-là a rendu le péché, leur péché, encore plus grave. Comparé au terrible péché de rejeter le Seigneur de gloire, leurs autres péchés étaient infimes. Désormais, ils n'en avaient plus d'excuse. Ils n'en avaient plus d'excuse de leurs péchés parce qu'ils avaient rejeté la lumière du monde. Et voilà ce qui est le péché impardonnable. La Bible parle du péché impardonnable. Le péché impardonnable, le péché qui ne se pardonne pas, c'est celui de rejeter Dieu, de ne pas croire. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas, tu t'en vas en enfer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes au fil des siècles qui ont affirmé être des guides spirituels, des sauveurs de quelque sorte. Il y en a encore, hein? Mais celui auquel l'apôtre fait référence ici, l'apôtre Jean, à qui il rend témoignage ici, c'est la véritable lumière. Et à cause de la venue dans le monde de cette véritable lumière-là, tout homme est éclairé. Tout homme est sans excuse. Ça ne veut pas dire, par contre, que tout homme reçoit une connaissance innée ou complète de Christ. Ça ne veut pas dire non plus que, ni que tout homme a entendu parler de lui à un moment ou à un autre. Mais ça veut dire que la lumière, elle brille pour les hommes de toute nationalité, de toute race, de toute couleur. Et en éclairant tout homme, le Seigneur Jésus a par le fait même révélé la vraie nature de tous les hommes. Et par sa venue dans le monde, comme étant lui l'homme parfait, l'homme sans péché, il a mis en évidence nos imperfections. C'est ce que Jésus a fait. Pensez à cela. Quand une pièce est dans l'obscurité, hein, mettons qu'il n'y aurait pas de fenêtre ici, là, puis qu'il n'y aurait pas de lumière, puis on ferme toutes les lumières, il fera noir. C'est impossible de voir la poussière sur les meubles. Mais de la minute qu'on rouvre la lumière, on voit la poussière sur les meubles. La pièce, elle est révélée telle qu'elle est. Alors, c'est la même chose pour nous autres. L'éclat de la véritable lumière, Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, révèle l'homme, c'est-à-dire nous, la race humaine, telle que nous sommes. J'aime pas entendre les ambulances, parce que avec la température, ça veut dire que... En tout cas, je ne veux pas être distrait par ça, mais... Pendant que plusieurs ont rejeté la lumière, plusieurs autres ont choisi de le recevoir par la foi. Ils ont choisi de croire en Jésus. Vous savez, une naissance naturelle, c'est le résultat de deux êtres humains qui ont décidé de procréer. Par contre, une personne qui naît spirituellement, c'est le résultat du choix souverain de Dieu. Ce qui m'amène à aller au verset 10. Je l'installe. Le verset 10 nous dit ceci. Cette lumière-là, elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Dans ce verset-là, Jean va résumer la présence entière de Christ dans le monde. Depuis sa naissance à Bethléem jusqu'au jour de son retour au ciel, la lumière, Jésus, était dans le monde que celui où nous vivons. Hein? Christ a créé ce monde-là et ce dernier lui appartient à juste titre. C'est lui, c'est son monde, c'est sa création. Néanmoins, au lieu de le reconnaître comme le créateur, les hommes l'ont pris pour un homme comme eux autres. Ils l'ont traité comme étant un étranger. On ne ferait pas ça, cet affront-là, à aux créateurs de toutes sortes de choses dans le monde aujourd'hui. On les reconnaîtrait, on aurait leurs photos tapissées sur nos chambres, je ne sais pas. Mais lui, le créateur du ciel et de la terre, on ne l'a pas connu. Le monde, et en particulier les Juifs, parce que là, le contexte qu'on parle, c'est sûrement les Juifs, mais ça s'étend jusqu'à nous. Les Juifs qui, dans le contexte présent, représentent le monde, ont rejeté le Christ. Tous l'ont rejeté, à l'exception de ceux mentionnés au verset 12 et 13. Parce que le Seigneur dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Si on est ici ce matin, si on a reçu Seigneur Jésus comme notre Sauveur, puis comme Seigneur de notre vie, si on est né de nouveau, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est ce que la parole dit. C'est pas mon sang, c'est pas ma parenté, c'est pas moi, ma chair, c'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Qu'on peut dire qu'on est sauvé. On arrive au verset 11 qui dit ceci, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Dans d'autres traductions, on pourrait dire, elle est venue chez ce qui était sien. Je ne sais pas si la version d'Arby, Louise n'a pas eu ça le matin, nous dirait ça, mais je n'ai pas eu la chance de vérifier cette semaine. Mais cette lumière qui révèle l'état moral de chacun produit le refus de la part de ceux qui se complaisent dans les ténèbres, ceux qui sont heureux de vivre dans le monde. Jean 3, si vous voulez tourner, versets 19 et 20. On peut lire, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils étaient bien là-dedans. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup à perdre s'ils viennent au Seigneur. Ça va coûter quelque chose. Et c'est le cas du monde en général. Le monde qui n'a pas connu son Créateur. Ce fut le cas du peuple juif en particulier. Lui qui n'a pas reçu le Messie, son Messie, que Dieu lui a envoyé. Et placé au début de l'Évangile, ce verset 11-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il projette une ombre sur le texte qui va suivre. Dès sa venue sur la terre, Jésus est considéré comme rejeté par son peuple. Vous vous souvenez? Tout de suite, Hérode a voulu faire tuer cet enfant-là parce qu'il avait peur que cet enfant-là lui vole son trône. Jésus n'est pas venu ici par la violence. Il n'est pas venu ici comme un chevalier qui combat. C'est ce que les Juifs attendaient, hein, quelqu'un qui était pour les délivrer de l'emprise des Romains. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Jésus est venu. Au contraire, il est venu vivre sur la planète Terre qu'il a lui-même créée. Il est venu vivre avec nous, sa création. Des fois, on fait des plaintes hein, quand on travaille. Oh, le boss, il est caché dans son bureau. Personne ne le voit. On ne sait pas pour qui qu'on travaille. Jésus est venu avec nous, parmi nous. Et les siens, son peuple, ne l'ont pas reçu. Dans un sens général, cette phrase-là, on pourrait la rapporter à toutes ces créatures, parce qu'il est vrai que la majeure partie de l'humanité a rejeté Christ et le rejette encore. Mais si on parle d'une manière un peu plus spécifique, la nation juive, le peuple terrestre choisi par Dieu, quand il est venu dans le monde, il s'est présenté à eux comme étant leur Messie. Il était un des leurs. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont point reçu. Quel scandale! Chose qu'on pourrait dire incompréhensible. Tu joues pour mon club, puis je t'ai poursu. Tu fais partie de moi, de mon peuple, puis je t'ai poursu. Je ne te connais pas. Et là, on arrive au verset 12. Et à chaque fois que dans la Bible, il y a des « mais », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Soit quelque chose de grave, soit quelque chose de bien. Mais le verset 12 dit ceci, « À tous ceux qui l'ont reçu, hein, il y en a qui ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jésus s'offre à nouveau à toute l'humanité. L'appel qui est fait, il est général. Et à ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir. On pourrait changer le mot pouvoir par le mot autorité. L'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est ce que le grec traduit. Et ce verset-là nous dit clairement comment devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une recette longue de même, ce n'est pas des volumes, c'est une phrase. Recevoir et croire. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. On a été enseigné, la plupart d'entre nous, qu'il fallait gagner notre salut. Non, ce n'est pas par les bonnes œuvres, c'est totalement faux. Ce n'est pas parce que je suis membre de l'Église ici que je suis sauvé, que j'y ai cru. Ce n'est pas en faisant de mon mieux. Non. Mais en le recevant. L'accepter, on pourrait dire. En croyant en son nom. Simplement par la foi. Je vois. Prendre quelques petites secondes pour vous faire une petite illustration. C'est plus slow à mon âge. Voyez-vous cette chaise-là ici? Moi, là, je crois que cette chaise-là peut me supporter. J'ai la foi que cette chaise-là peut le supporter.
Mais si tu la sais pas,
ça va. Elle ne voit pas mon punch. Je crois qu'elle peut me supporter.
Mais tant que je m'assis pas dessus,
j'espère qu'elle va me supporter.
Tant que je m'assis pas dessus, ma foi, ce que j'ai dit avant n'a pas vraiment de valeur. Mais parce que je me suis assis dessus, puis vous voyez ça, vous dites, ouais, c'est vraiment, il y a la foi que cette chaise-là peut le porter. Donc, c'est ça, avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, oh, je crois. Mais quand vient le temps de mettre leur foi à l'épreuve, ou de la tester, c'est autre chose. On vient dimanche pour bien paraître, mais en réalité, on n'est pas des croyants, parce que lorsque je suis sorti d'ici, c'est d'autres choses. Le verset 13, on va aller un petit peu plus vite, qui nous dit « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dans le domaine physique, pour recevoir un enfant, il faut naître. On doit naître. Et la même chose pour devenir un enfant de Dieu, il faut passer par une deuxième naissance. C'est ça que Jésus a expliqué à Nicodème, puis on va y arriver peut-être cette année, j'espère. Autrement dit, il faut naître de nouveau. Il faut se convertir pour être sauvé. Et le verset 13 nous donne trois processus qui ne peuvent produire la nouvelle naissance et la manière unique par laquelle cette nouvelle naissance-là s'opère. Et je vais juste prendre gorgée, bien. Jean nous dit que cette nouvelle naissance-là, ce n'est pas par le sang. Personne ne devient un chrétien parce qu'il a des parents chrétiens. Il y en a quelques-uns ici qui ont des parents chrétiens. Il y en a qui ont des enfants. Ce n'est pas automatique. Pas parce que Michel est né de Carmen puis de son papa, que Michel est nécessairement devenu un chrétien. Puis c'est pas la même chose pour les enfants de Mathieu puis de Stéphanie. Ils ne deviendront pas des chrétiens parce qu'eux sont des chrétiens. Le salut ne se transmet pas de parents aux enfants au moyen du sang. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, Jean nous dit, ni de la volonté de la chair. Personne ne possède en sa chair le pouvoir de naître de nouveau. Pour être sauvé, on doit le désirer. C'est un appel, c'est comme un appel. Notre propre volonté n'est pas suffisante pour être sauvé. C'est ce que ça veut dire. Oui, on doit le désirer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça vienne de plus haut. Que ça soit un appel. En anglais, on dit la grâce irrésistible. Irresistible grace. Ça, c'est plus fort que la volonté humaine. Et je continue avec ni de la volonté de l'homme. Aucun homme ne peut être sauvé. Autrement dit, aucun homme ne peut sauver un autre homme. Un prédicateur comme moi peut certes être très désireux de voir une personne naître de nouveau, mais je n'ai pas la capacité de lui dire, ben, t'es né de nouveau. Je te déclare né de nouveau. Là, il y en a quelqu'un qui pourrait me dire, bien, comment est-ce que cette nouvelle naissance-là se produit-elle? Nicodème a posé la même question. Quand Jésus il a parlé de nouvelle naissance, il a dit, comment tu veux-tu que je rentre dans le sein de ma mère? Impossible.
Cette nouvelle naissance-là, elle provient de Dieu. Oh, nous, les chrétiens, on entend parler depuis le temps qu'on est sauvés. Mais Charles Spurgeon a prêché toute sa vie le salut dans tous ses messages. La nouvelle naissance vient de Dieu. Le pouvoir de produire cette nouvelle naissance-là ne réside en rien dans l'homme, mais en Dieu seul. Et je conclue avec ceci. Il n'y a rien de plus complet qui démontre l'obscurité de l'esprit de l'homme que lorsque la lumière est apparue. La lumière est venue dans les ténèbres. Et là, l'homme a été, tel qu'il est, a été dévoilé. Elle a eu besoin d'un témoin tel Jean-Baptiste pour y attirer son attention à la lumière. Christ, c'est lui la vraie lumière. C'est lui que Jean-Baptiste a annoncé, celui qui va venir après moi. Cette grande lumière qui mérite d'être appelée la véritable lumière. Par son esprit, par sa grâce, cette lumière-là éclaire tous ceux qui sont éclairés au salut. Et pour ceux qui ne sont pas éclairés au salut, eh bien, ils périssent dans leur obscurité, dans l'obscurité. C'est pour ça que il y a certainement des gens qu'on aime, hein? Il y a peut-être de nos enfants qui ne sont pas sauvés. Il y a peut-être des parents qui ne sont pas sauvés. Il ne faut pas avoir la crainte de leur parler de ce merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Il ne faut pas... Pour ceux qui l'ont entendu parler, il faut qu'on soit des modèles devant le monde. Si tantôt on va au restaurant puis on agit comme des caves, excusez, là, c'est pas un témoignage, ça. Mais c'est la même chose dans nos familles. C'est la même chose. Partout où on est, on doit être des petites lumières qui ont un grand éclat. Christ est venu dans le monde en prenant notre nature. Il est venu pareil à nous autres. Puis il a demeuré parmi nous autres. Que ce soit passé plus de 2000 ans passé, c'est la même chose s'il viendrait aujourd'hui. Mais le temps propice, c'était dans ce temps-là. Le Fils de Dieu est venu ici dans le monde, dans un monde inférieur. Il a été dans le monde, mais il ne faisait pas partie du monde. Il n'a pas pris part aux mauvaises choses du monde. Non, Jésus est venu pour sauver un monde perdu. Parce que ce monde était de sa propre fabrication. Il nous a aimés. Il aurait pu nous laisser pourrir, périr. Non. Et ça a été décidé dans le jardin d'Éden, après qu'Adam et Ève ont eu péché, puis je dirais même avant la fondation du monde. Il y avait un salut pourvu pour tous ceux qui croient. Malgré ça, le monde ne l'a pas connu. Mais lorsqu'il reviendra, pas lors de l'enlèvement, mais lorsqu'il viendra à la fin du monde, au jugement dernier, tout le monde le connaîtra et tout genou fléchira. Beaucoup disent qu'ils sont en Christ, ils sont des chrétiens sauvés.
Pourtant, ils ne l'ont pas reçu. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi ces gens-là ne sont pas sauvés, même s'ils disent qu'ils sont sauvés? Parce qu'ils persistent à demeurer dans leur péché. Ils n'acceptent pas que Christ règne sur leur vie. Tout enfant de Dieu, tout authentique enfant de Dieu, est né de nouveau. Et cette nouvelle naissance-là a comme moyen la parole de Dieu. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, verset 23. Allez-y, là, tournez-y, ça va à peine. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, il parle à des chrétiens, là, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu, hein, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par cette parole-là que nous, les régénérés, on a reçu cette semence incorruptible, c'est-à-dire qui ne se perd pas, qui pourrit pas, qui ne se détruit pas. C'est la parole de Dieu. Et l'auteur de cette parole de Dieu-là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Sa semence divine. Christ a toujours été présent dans le monde parce qu'il est Dieu. Mais maintenant qu'il était là, en chair et en os, il est venu avec un corps. Il était un Dieu, le Dieu manifesté en chair et en os. Mais pouvons-nous, est-ce qu'on peut voir ces rayons, les rayons de sa gloire divine qui rayonnent, même si on est voilé par cette chair? Oui. Oui, nous qui sommes sauvés, on voit la lumière. On la voit, cette lumière-là, pas comme aujourd'hui dehors, là, mais dans sa parole. Et c'est cette parole-là qui réchauffe notre cœur à chaque fois qu'on la lit, à chaque fois qu'on pose nos yeux sur cet héritage-là qu'on a reçu, l'Ancien puis le Nouveau Testament, c'est là que nos yeux, nos cœurs se réchauffent. C'est pour ça qu'il faut continuer. Les hommes, ils ont découvert leur faiblesse, les plus familières avec eux, mais ce ne fut pas ainsi avec Christ. Ceux-là qui furent les plus intimes avec lui, ils ont vu sa gloire. Que tu veux être intime avec le Seigneur. Hein, c'est ce qu'on veut. Et en ce qui concerne les circonstances qu'on pourrait appeler extérieures, bien qu'ils soient venus en forme de serviteurs, pourtant, sa forme ressemblait plutôt à celle du Fils de Dieu. Sa gloire divine est apparue dans la sainteté de sa doctrine, de qu'est-ce qu'il disait et dans ses miracles. Il était plein de grâce. Il était entièrement acceptable par son Père. Il était qualifié pour plaider la cause de chacun de nous, parce qu'on est tous des pécheurs. On est tous condamnés, sauf pour ceux qui ont cru, ceux qui sont nés de nouveau. Jésus-Christ a plaidé la cause de chacun de ceux qui sont régénérés, sauvés ce matin. Le Seigneur était plein de vérité. Et enfin, il était entièrement conscient des choses qu'il devait révéler dans sa parole. Que Dieu puisse nous bénir ce matin par l'enseignement qu'on reçoit dans ces quelques versets-là. Qu'on puisse y revenir, qu'on puisse les relire, ces passages-là. Parce que le Seigneur nous dévoile son plan au niveau du salut à tous ceux qui croiront. Amen.
Ça nous a parlé ce matin, j'espère. Oui, je vais demander à Michel de venir pour s'avancer pour